Les conférences du Collège de France.
Bonjour à tous et toutes. Bienvenue pour la dernière séance de ce cycle de conférences sur les fondations. Je remercie une fois encore Sophia pour avoir partagé avec nous ce dossier remarquable dont à propos duquel un livre va bientôt sortir de presse. Et je vais sacrifier à une coutume, une tradition, un rituel qui ponctue en général les invitations de conférenciers étrangers, donc invités par l'Assemblée des professeurs sur proposition d'un de ses membres. Alors certains de mes collègues sacrifient à ce rituel la première conférence, lors de la première conférence. Moi j'attends la dernière. Et donc voilà, ma chère Sophia, tu as droit à une médaille. Vu les sujets dont je m'occupe, ne pas sacrifier un rituel serait une faute professionnelle, n'est-ce pas? Donc voilà, la boîte est pour toi aussi. Tu peux...
Merci beaucoup. Oui, je ne veux pas gagner.
Voilà, ce sera plus simple.
C'est lourd, hein?
Surtout que c'est lourd. Oui, mais la maison ne recule devant aucun sacrifice.
Hein. C'est presse-papier.
Voilà. Très
Merci
bien.
Beaucoup.
Donc, la parole est à toi pour ce dernier volet donc, qui va nous parler de la mémoire du fondateur dans la vie collective et dans la sphère publique.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous en sommes, comme Vincent a déjà dit, à la quatrième et dernière conférence de cette série sur les fondations du monde grec. Depuis la troisième conférence, nous nous sommes penchés sur le dialogue continue entre l'individu, le fondateur, et la communauté bénéficiaire. Sans nier les avantages économiques directs ou indirects que les fondateurs ou que les fondations procurent à leurs fondateurs, nous avons conclu la conférence précédente en réfutant l'idée selon laquelle l'intérêt financier du fondateur déterminerait les conditions et la philosophie des fondations. Donc, la question qui se pose est à quoi aspire un fondateur, si ce n'est pas l'intérêt financier, comme nous avons déjà dit pendant la dernière conférence. La réponse est presque évidente. Comme tout donateur ou contributeur, le fondateur aspire avant tout à la réalisation de l'objectif de son don, à sa pérennité et bien entendu à une réaction positive de la part des bénéficiaires. En d'autres termes, il vise le succès de son acte de don à long terme. Dans cette dynamique, la communauté bénéficiaire et son implication jouent un rôle particulièrement déterminant. Un coup d'œil au graphique de mercredi dernier nous donnera une idée plus précise. Les objectifs de la majorité des fondations de deux périodes, hellénistique et impériale, concernent principalement des activités nécessitant la présence physique et la participation de la communauté. Fêtes, sacrifices, banquets, compétitions, dédicaces, cultes, gymnases, éducation et distribution. La communauté bénéficiaire et la vie collective, qu'elle soit politique ou religieuse, constituent ainsi le cadre essentiel à la réalisation de l'objectif. Il est donc essentiel d'examiner comment les objectifs poursuivis par les fondations contribuent à des finalités plus globales, telles que la pérennité de leurs actions et la diffusion de leurs résultats. Nous pouvons commencer par formuler quelques observations générales. Première observation, les fondations, lorsqu'elles disposent d'instruments juridiques et administratifs solides, sont en mesure de poursuivre leurs objectifs spécifiques de manière continue et systématique. Deuxième observation, avec l'approbation du bénéficiaire comme condition préalable. Les fondations rassemblent les meilleures conditions pour l'activation du bénéficiaire au service de leur objectif. Troisième observation, les mécanismes de la fondation génèrent leur propre mémoire. L'entretien et la pérennisation des fondations reposent en partie sur les exigences administratives et le fait que leurs fonds conservent une identité propre qui inclut et reproduit le nom du donateur, bien qu'ils soient incorporés dans des mécanismes d'investissement et d'exploitation plus larges, crée des opportunités pour que le nom du fondateur reste présent. Par exemple, parmi les nombreuses fondations recensées à Delos, c'est à l'écran à gauche, comme vous voyez, les fonds constitutifs de ces entités et par extension les fondations elles-mêmes portent généralement le nom de leur donateur, de leur fondateur. Deux autres cas à droite, nous avons déjà mentionné dans nos conférences, concernent la fondation de Eudème à Milet et celle de Symmasis en Lycie. Dans tous les types de transactions, les fonds des deux donateurs conservent leur appellation spécifique et donc leur identité. Après ces observations préliminaires, nous allons examiner l'évolution de certaines fondations dans un ordre chronologique afin de mieux comprendre le contexte dans lequel elles se développent. Les premières traces des fondations dont nous disposons concernent principalement le transfert d'argent ou des biens par des particuliers en vue de financer des actes cultuels. Selon Plutarque, dans le dernier quart du 5e siècle avant notre ère, le général athénien Nicias consacre à Delos un terrain d'une valeur de 10 000 drachmes. Les revenus générés par ce terrain doivent servir au financement des sacrifices et des festins organisés par les Déliens, tout en invoquant des vœux de prospérité pour Nicias lui-même. C'est le deuxième texte. Au 4e siècle avant notre ère, Archinos dédie un terrain à la mère des dieux. Le texte gravé sur la stèle érigée sur ce terrain précise que des sacrifices, probablement financés par les revenus de cette même terre, doivent être accomplis deux fois par an. Les sacrifices accomplis dans le cadre des fondations de Nicias et d'Archinos joue un rôle essentiel dans la relation permanente que ces fondations cherchent à instaurer avec le divin. Par ces offrandes, ils aspirent à s'attirer la faveur de la triade délienne et de la mère des dieux, Nicias et Archinos, respectivement. De cette manière, ce sont les fondateurs qui deviennent en quelque sorte les destinataires privilégiés de leur fondation. À la lumière de ces données, nous pouvons affirmer que les premières fondations attestées créent un paysage sûr dans le domaine de l'expression de la piété. Dans les actes de culte, la durée et la répétition ne garantissaient pas uniquement leur efficacité pour les fidèles. En honorant régulièrement et de manière répétée et durable les divinités, la communauté ne se contentait pas de renforcer son lien avec le sacré. Elle donnait aussi naissance à une valeur ajoutée symbolique, une preuve tangible de sa vitalité, de sa cohésion sociale et de son succès collectif. L'importance des fondations pour le culte devient encore plus compréhensible lorsque nous considérons que dans de nombreuses manifestations de la piété privée, la pérennité reste particulièrement fragile. compromettant ainsi leur efficacité tant pour les fidèles que pour la communauté, à une époque plus tardive. Entre le 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, Rhode illustre parfaitement cette précarité. En 99 avant notre ère, la célèbre chronique de Lindos rapporte qu'au sein de l'ancien et vénérable sanctuaire d'Athéna à l'India, la plupart des offrandes avaient été détruites ainsi que leurs inscriptions. Face à cette situation, la cité de Lindos prirent la décision de désigner deux hommes chargés de consigner les offrandes dédiées à la déesse sur une stèle de pierre provenant de l'Arthos. Environ un siècle plus tard, en 22 de notre ère, toujours à Lindos, un décret nous informe que les revenus, c'est le deuxième texte, que les revenus de la communauté lindienne sont insuffisants alors que les dépenses liées aux sacrifices et aux festivités deviennent souvent écrasantes. Cette situation place les magistrats dans une position difficile car il est essentiel pour les Lindiens de préserver à la fois l'hommage rendu aux dieux et leur dignité collective. Dans ce contexte, il est proposé de mettre en vente les objets en bronze et en fer, c'est-à-dire les ex-voto. Une fois la vente effectuée, les fonds récoltés seraient confiés aux prêtres d'Athéna en tant que dépôt sacré. Un peu plus loin, et c'est l'extrait que vous voyez à l'écran, le deuxième extrait, le même décret rapporte que certaines statues situées sur le chemin menant au sanctuaire et à l'acropole ne portent ni inscription ni insigne. Dans leur intérêt, il est nécessaire de les munir d'une inscription indiquant qu'elles sont consacrées aux dieux. Face à cela, les Lindians décidèrent de procéder de manière pragmatique. Ils mirent en location l'inscription de chaque statue, attribuant celle-ci au plus offrant. Les fonds recueillis grâce à cette location furent ensuite consacrés au patrimoine d'Athéna l'India et de Zeus Polyeps. Si Lindos a été retenu ici, c'est avant tout pour la richesse des informations qu'il offre. Certes, il s'agit d'un cas tardif, mais il n'est pas isolé. Des cas analogues sont largement attestés tout au long des périodes antérieures de l'histoire grecque. Ce que je veux dire ici, c'est que les fondations dont les revenus sont spécifiquement affectés au financement des cérémonies récurrentes permettent de surmonter la précarité en offrant une solution plus durable à l'expression de la piété privée. Les fondations sur l'île de Delos attestent du succès de ces modèles. Nous disposons de preuves concernant 28 fondations datées entre la fin du 4e et la fin du 3e siècle avant notre ère. Ces fonds confiés au sanctuaire d'Elian varient entre 1500 et 8700 drachmes. Les intérêts générés par ces sommes étaient affectés à plusieurs objectifs précis, notamment des festivités annuelles comprenant des sacrifices et des danses. Dans la plupart des cas, elles portaient le nom du donateur concerné, qu'il s'agisse d'un roi à gauche ou d'une personne privée à droite. Un autre objectif des fondations d'Hélène étaient les dédicaces annuelles des vases, principalement des fiales et des scaphia. Ces vases portaient des inscriptions mentionnant le donataire. Nous connaissons ces inscriptions grâce aux inventaires des liens. Nous n'avons pas les vases. Et vous voyez des exemples. À gauche, le fondateur, le donateur, c'est le roi Antigone. Et à droite, c'est Nicolaos, l'Étolien, un Étolien. Il est à noter que les célébrations à Delos n'était probablement ni somptueuse ni spectaculaire. Elle offre cependant aux fondateurs de ce fête de nombreuses occasions de jouer un rôle actif dans la vie cultuelle du sanctuaire et de démontrer leur piété. C'est précisément en raison de leur potentiel multidimensionnel et de leur pérennité que les fondations s'avèrent être des instruments idéaux pour l'établissement de nouveaux cultes, ou peut-être, osons-nous le dire, pour la fondation de nouveaux cultes, mettant ainsi en évidence la polysémie du mot « fondation ». Un exemple frappant de cette dynamique remonte au début du IVe siècle avant notre ère. Xénophon, exilé à Skylos, dédie à Artemis Ephésia un vaste et fertile domaine. Sur ce domaine, il établit un culte en l'honneur de la déesse. Ce culte s'appuie sur un mécanisme économique clair. Les sacrifices organisés lors des festivités étaient financés grâce à la dîme des revenus. En plus, la déesse offrait aux participants divers produits du domaine et de forêts voisines. Ces festivités rassemblaient une communauté hétérogène, incluant citoyens et dévots, hommes et femmes qui campaient sur place. Il est évident que cette fondation allait bien au-delà de la simple création d'un nouveau culte. Xénophon crée une communauté d'adorateurs dont il fait manifestement partie, peut-être pour mieux s'intégrer au milieu dans lequel il vit en exil. On voit ainsi que le mécanisme structuré des fondations émerge pour garantir ou afin d'assurer le financement d'un nouveau culte. Cette pratique s'inscrit dans une tradition bien ancrée de gestion des cultes par les sanctuaires et les communautés, associant leur financement à des revenus fixes. En tant que mécanisme adapté au financement de nouveaux cultes, les fondations sont également apparues dès le IVe siècle avant notre ère au sein d'associations familiales. Celles-ci sont instituées non seulement pour gérer les honneurs rendus au fondateur et sa famille, mais aussi pour assurer le culte des divinités étroitement liées à cette lignée. Dans ce contexte, l'association, le culte et la fondation deviennent absolument interdépendants. Les revenus générés par les biens appartenant à ces fondations était destiné à financer les sacrifices et les banquets organisés dans les lieux désignés par le fondateur eux-mêmes. Les membres des associations, qui étaient généralement issus de familles élargies, définies par les donateurs, jouissaient du droit de participer activement à ces sacrifices et à ces banquets. La plus ancienne fondation connue de ce type est celle de Diomédon à Kos, datée de la fin du IVe siècle ou début du IIIe siècle avant notre ère. Diomédon confia à Héraclès Diomédontéios des biens immobiliers, un téménos, un jardin et divers bâtiments, ainsi que des biens mobiliers qui constituaient l'infrastructure nécessaire au culte. Par la même occasion, il créa une association cultuelle rassemblant ses descendants et ses proches. Cette association avait pour objectif d'organiser des sacrifices dédiés à Héraclès, ainsi que la tenue des symposia, des banquets, dans les locaux spécialement aménagés à cet effet. Ces locaux servaient également à un esclave qu'il avait affranchi, ce dernier étant chargé, lui et ses descendants, de générer des revenus pour maintenir le culte. À la fin du IIIe siècle et au début du IIe siècle avant notre ère, Épictète fonde une association familiale sur l'île de Terra, Epicteta précise elle-même la composition de cette association. L'objectif principal est de rendre un culte aux membres défunts de sa famille, son mari, ses deux fils, ainsi qu'aux muses. Le lieu central de ces cultes est le Museion, un espace spécialement aménagé et décoré par la famille. Ce Museion comprend une enceinte avec les monuments héroïques des défunts, leur conférant une dimension sacrée et mémorielle. Epictète consacre 3000 drachmes. Cette somme permet de générer un revenu annuel destiné à financer les activités cultuelles et les rassemblements de l'association. Chaque année, les membres de cette association se réunissent au Museion pour un culte qui s'attend sur 3 jours consécutifs, Synagoran Epimeras Tres, ento Museio, consacré aux muses, aux héros Phénix et Epictète après sa mort, et aux deux fils défunts, Kratesilochos et Andragoras. Nous avons aussi la fondation de Poseidonios à Halicarnasse, en Carie, que l'on date au milieu du IIIe siècle avant notre ère. Guidé par un oracle d'Apollon, Poseidonios a organisé un culte en l'honneur de Zeus Patros, d'Apollon, de Telmessos, des destins, Moirai, et de la mère des dieux. Poseidon prévit également des sacrifices posthumes destinés à l'agathée Tyché de ses parents, ainsi qu'au agathos daimon, de lui-même et de son épouse Rhoryis. Les 3 associations familiales peuvent être analysées comme des véritables communautés de mémoire. Leur rôle de fondateur est central. Ils établissent des structures au sein desquelles la mémoire collective, mais aussi individuelle, est perpétuée. Les rituels, les célébrations collectives, ainsi que les activités de la vie en communauté, financées par les revenus de la fondation, crée un espace d'échange et de partage qui permet de consolider un sentiment d'appartenance, à la fois individuel et collectif. Cela renforce la cohésion sociale et favorise l'intégration continue de la mémoire familiale dans le tissu de la société. En prenant part à ces processus de mémoire collective, les membres des groupes familiaux forgent et affirment leur propre identité. Les fêtes et cérémonies célébrées en l'honneur des fondateurs et de leur famille ou à leur mémoire ne se limitent pas aux associations familiales. Il est fréquent que des biens soient transférés à des communautés préexistantes afin de financer des objectifs similaires. Les communautés dans lesquelles les fondateurs choisissent d'ancrer leur mémoire sont souvent des associations dont ils sont parfois eux-mêmes membres. Les associations offrent un cadre à la fois familier et gérable, garantissant ainsi la pérennité de leurs souvenirs. Il y a quelques cas de la période hellénistique et beaucoup plus de la période impériale romaine, comme vous pouvez voir à l'écran. Le bref texte relatant la fondation d'Ariéa à Terra datait de la fin du IIIe et du début du IIe siècle avant notre ère, se révèle particulièrement éclairant. Et en plus, est vraiment très court. Alors qu'Epictète fondait son association familiale et consacrait 3000 drachmes pour financer le culte familial dans son musée, cette figure féminine, Argea, adoptait une approche plus économique et pragmatique, elle a choisi d'intégrer ses pratiques dévotionnelles au sein d'une association cultuelle déjà existante. L'inscription en question s'annonce ici. Ainsi, parce que Argea, fille de Dion, est philodoxos et souhaite laisser un souvenir éternel et visible de sa propre vertu, elle s'engage à donner 500 drachmes à l'association, en l'occurrence une association cultuelle, afin que le septième jour soit toujours célébré au sein de cette association comme un jour en son honneur et en celui de sa fille Ismo. Nous ne savons pas si c'est chaque mois ou chaque année. C'est le septième jour, on ne sait pas. En cas similaire que nous avons mentionné à plusieurs reprises jusqu'à présent, est celui de l'association des travailleurs du bronze en Lycie. C'est au sein de cette association qu'au milieu du IIe siècle avant notre ère, Symmachus ancre son prestige et perpétue la mémoire de sa famille ainsi que la sienne en ayant donné un capital destiné à financer des sacrifices et des banquets. Symmachus et son épouse, tout en étant honorés de leur vivant, continuent à l'être après leur mort grâce à leur héroïsation. Enfin, il est intéressant de noter que le nombre de fondations similaires faites aux associations cultuelles ou professionnelles quelquefois pour financer des cérémonies posthumes connaît une forte augmentation à l'époque romaine. Ces cérémonies qualifiées de rovismos, offrande des roses ou rosalia en latin, ou stéphanoticon, couronnement, se déroulent généralement à proximité du monument funéraire et sont financés par des petites fondations. Vous voyez ici un exemple de Philippe, provenant de Philippe, et nous avons là les mots parakausosin katarovois, ectontokon, des revenus. Selon Ono Vanaif, dans ces petites fondations mémorielles de l'époque romaine destinées à des associations cultuelles ou professionnelles, les individus cherchaient à se commémorer eux-mêmes, mais également à s'inscrire durablement dans la mémoire collective et en dépit de leur statut social souvent limité. Cette dynamique profitait également aux associations qui se montraient alors comme des entités respectables et fiables. En effet, les associations constituées pour les classes moyennes, qu'il s'agissait des citoyens ou de non-citoyens, un cadre intime et accessible. Ce cadre leur permettait non seulement de renforcer, mais également de pérenniser leur mémoire collective, en dépit de leur exclusion de la communauté politique formelle. Cette interprétation des fondations au sein des associations se révèle particulièrement convaincante et ne se limite pas à la période impériale, mais peut s'appliquer également à la période hellénistique. Et il s'agit toujours des associations préexistantes, pas les associations familiales, les grandes associations dont nous avons vu les trois exemples, Diomédon, Épictète et Posidonios. Et il y en a d'autres, de régions de Cyclades, de Carie et de Dodécanèse, mais ils ne sont pas si bien attestés. Cependant, certaines personnes, en raison de leur position sociale, parviennent à mobiliser l'ensemble de la communauté politique ou de ces institutions dans la construction narrative de leur honneur et de leur mémoire. Dans ce contexte, les fondations financent des actions et des événements en hommage ou en mémoire, tout en s'inscrivant pleinement dans la sphère publique de la communauté politique. Pour illustrer ces propos, je vais maintenant présenter une série de cas issus de la période hellénistique. Entre 250-200 avant notre ère, Arete a offert des terres aux habitants de la petite communauté des Egosthena, un village de l'Attique, pour qu'ils offrent des sacrifices et organisent un concours à l'honneur d'un certain Poseidonios, peut-être son mari, son défunt mari. De même, à Kalauria, nous avons déjà vu ce cas, aujourd'hui Poros, entre le 3e et le 2e siècle avant notre ère, des donateurs issus de classes sociales supérieures, et peut-être de la même famille, Arasiclès, Nicarora et Arasicratis, ont confié de l'argent et des biens pour des sacrifices à Apollon et à Zeus Sotère. À l'écran, vous pouvez voir l'une des deux fondations, celle d'Arasicratis. En résumant les deux textes, nous pouvons dire que des sacrifices ont été effectués sur des autels près des statues des fondateurs et celles des membres de leur famille, dans le centre de la cité, près du bâtiment du conseil et du sanctuaire de Poséidon. Le cas d'Archippe de Chime, un éolide, vers le milieu du IIe siècle avant notre ère, est particulièrement remarquable. Ici, la mémoire de la donatrice s'inscrit au cœur même de la vie politique de la communauté, en atteignant son centre névralgique, le conseil. Archippe, ayant entrepris la rénovation du bâtiment du conseil, a établi une fondation destinée à financer des sacrifices sur l'autel construit dans ce bâtiment, mais aussi à assurer son entretien. Ce dernier abrite des statues d'Archippe et de son père. Par ailleurs, l'intégration, le fonctionnement du mécanisme des mémoires individuelles dans le cadre de la cité trouve une illustration particulièrement pertinente dans une fondation datant de la fin du IIe siècle avant notre ère. Cette fondation provient des Iales, sur l'île d'Amorgos, dans les Cyclades. Nous en avons connaissance grâce au décret de la cité gravé sur une pierre, vous voyez la pierre, qui se trouve aujourd'hui au musée épigraphique à Athènes. Elle fut instituée par Critolaos en mémoire de son fils Alexímachos. L'histoire est la suivante. Critolaos attribue à la cité des Iales un fonds de 2000 drachmes dont les revenus sont destinés à financer des festivités commémorant son fils, Alexímachos, décédé prématurément. L'inscription est longue, vous la voyez, requiert de nombreuses informations et les paramètres sont assez complexes. J'ai organisé les données qui nous intéressent en deux écrans. Ici, le premier. Les festivités rassemblent une grande partie de la population. Citoyens, Phèbes, étrangers, résidents, visiteurs et même des Romains. Elles comprennent plusieurs événements. Une procession, le sacrifice d'un bœuf suivi d'un grand banquet dans l'enceinte du gymnase où la viande du bœuf est partagée. Du porc est également distribué à chacun des Phèbes. Le lendemain, un autre repas collectif est organisé, réunissant à nouveau toute la communauté. Ce banquet inclut non seulement les citoyens de la cité, mais aussi les étrangers résidents, les visiteurs, les Romains et leurs fils. En mémoire d'Alexímachos, sur le deuxième écran, des compétitions sont également organisées dans le gymnase. Le premier jour, les épimélètes procèdent le sacrifice rituel d'un bélier à côté de la statue d'Alexímachos. Le deuxième jour est consacré aux épreuves sportives. Une course est organisée et les récompenses pour les participants consistent en des morceaux de l'animal sacrifié ainsi qu'en une part des offrandes, des autres offrandes. Le gymnasiarque prend également l'initiative d'organiser une course au flambeau. La participation est obligatoire pour tous ceux qui remplissent les critères d'âge. Enfin, les prytanes sacrifient, accomplissent un dernier acte rituel en sacrifiant une chèvre au héros Alexis-Maros. Il est évident que dans la petite cité d'Amoros, la mort d'Alexis-Maros revêt une dimension collective, impliquant toute la communauté. La fondation établie par Critolaos en sa mémoire organise et finance des cérémonies qui requièrent activement la participation de l'ensemble des habitants, générant ainsi une variété d'expériences partagées entre les différents groupes sociaux. Il est également clair que les fonds de Critolaos ne suffisent pas, les 2000 drachmes, à financer l'ensemble des festivités. Les autres membres de l'élite viennent en soutien à son initiative. Le défunt est intégré à la mémoire collective par les biais de multiples célébrations, sacrifices, banquets, distributions, processions, compétitions athlétiques. Ces événements, soigneusement planifiés par le père pour honorer son fils, mais aussi par la cité elle-même, rythment la vie collective en mobilisant des individus de tous âges, avec une attention particulière portée à l'implication des jeunes générations. Bruck a interprété l'activation de la communauté politique dans un livre de 1926. L'activation de la communauté politique ou des associations pour le soin de la mémoire de l'individu comme une conséquence du rétrécissement des fonctions assumées par la cellule familiale dans ce domaine. Cette idée a été partagée par d'autres chercheurs tels que Claire Préau et Andreas Hielmis. Je cite Andreas Hielmis. La période hellénistique voit la famille désintégrer progressivement de ce fait n'être plus en mesure d'assurer la mémoire de ses morts. Ce rôle peut désormais être confié, entre autres, à des entités créées à cette fin que nous appelons des fondations. Cette interprétation entre en contradiction avec les données disponibles qui révèlent au contraire une implication dynamique des familles qui œuvrent pour préserver leur mémoire collective au sein des associations et des communautés politiques. Le point de vue exprimé par Evtichia Stavrianopoulou dans une série de conférences qu'elle a données ici, au Collège de France, en 2019, et qui a ensuite été publiée dans le livre que vous voyez à l'écran, est bien plus proche de la réalité des données dont nous disposons. Ce qui distingue la société grecque antique, particulièrement à partir de la période classique et encore plus nettement dès le deuxième siècle avant notre ère, n'est pas tant un déclin de la famille que l'apparition d'une relation étroite et complexe entre l'individu, ou plus précisément l'oïkos, et la communauté. Et je peux ajouter ici que les fondations s'inscrivent parfaitement dans cette réalité de dialogue intensif entre la famille et la communauté. Certaines fondations financent des fêtes ou des compétitions portant le nom de leur fondateur. Ces événements contribuent à inscrire le nom du fondateur dans la conscience collective de la communauté locale de plusieurs manières. Pour comprendre la dynamique de ces fondations, il est essentiel d'examiner les multiples moyens par lesquels le nom du donateur, ou du fondateur si vous voulez, est intégré dans le tissu social de la communauté accueillant c'est manifestation, la manifestation qui porte le nom du donateur. La célébration était enregistrée dans le calendrier des célébrations de la communauté. Premier point. Deuxième point, la communauté participait à intervalles réguliers à des activités qui portaient le nom du donateur, sachant que ce dernier les parrainait. Troisième point. Dans les concours, même modestes, le nom de la fête marquait les victoires et était inscrit sur les statuts des vainqueurs et éventuellement sur les listes de victoires. Quatrième point, la fête et la compétition engendraient des besoins en gestion, aussi bien lors de la préparation qu'après l'événement. Elle rassemblait la communauté autour d'une cause commune portant le nom du donateur. Voici quelques exemples de fêtes qui portent le nom du fondateur. À Pharsalos, nous avons déjà vu plusieurs de ces cas. En Thessalie, nous avons, oui, pendant les présentations, les autres présentations, les autres conférences. À Pharsalos, en Thessalie, dans la première moitié du IIIe siècle avant notre ère, les revenus générés par la fondation de Léonides d'Halicarnasse devaient financer d'une part l'huile destinée au gymnase et d'autre part une compétition athlétique appelée Léonideia, ainsi qu'une course au flambeau. Par cette fondation, dédiée au gymnase et aux cours portant son nom, Léonides, originaire d'Asie mineure, s'insérait dans la communauté thessalienne de Pharsalos. À Delphes, au début du IIe siècle avant notre ère, Alcésipos lègue à Apollon Pythios une somme d'argent afin de célébrer une fête portant son nom, Alcésipeia, et comprenant un sacrifice, un banquet et une procession à laquelle participeront les magistrats et les citoyens de Delphes. Alcésipos, originaire de Calydon, en Étolie, alors près de Delphes, inscrit sa mémoire dans le sanctuaire panhellénique et dans la cité de Delphes, impliquant ainsi la communauté dans la procession de la fête qui portera son nom. À Cardamyle, en Laconie, au 1er siècle avant notre ère, Comas, fils de Badesias, a institué une fondation destinée à financer une fête agonistique et celle-ci portait le nom de Badesseia. C'est le nom de son père ou de son fils peut-être, plutôt de son père. Entre la seconde moitié du IIe siècle et, la première moitié du IIIe siècle de notre ère, les fondations destinées à organiser des fêtes et des concours portant le nom de leurs fondateurs sont très répandues en Lycie ainsi que dans les régions voisines de la Pamphylie, de la Pisidie et de la Phrygie, en Asie mineure. Ces régions nous ont légué un grand nombre de témoignages attestant l'existence des petites fêtes désignées par le terme général de thémives. Elles consistaient principalement de compétitions athlétiques et les données dont nous disposons proviennent exclusivement d'inscriptions gravées sur les socles des statues des vainqueurs et sont au nombre de 151. Ces textes courts offrent peu d'informations détaillées. Le cas le plus connu est la fête triennale appelée Demosthenia à Enoanda, en Lycie, parrainée par la fondation de Demosthénès. Nous avons mentionné plusieurs fois pendant ces conférences. La fête, qui s'attend sur 23 jours, comprend 13 jours de concours. Les compétitions incluent des épreuves musicales et dramatiques. À l'occasion de la fête, des distributions sont allouées aux membres de l'élite, tandis que des sommes plus modestes sont remises à tous les citoyens, aux affranchis et aux résidents non-citoyens. Paroikoi. Des compétitions athlétiques ouvertes aux citoyens sont également prévues. Suite à l'annonce du donateur, la cité a adopté d'autres dispositions, comme en témoigne le décret du Conseil et celui du Demos. Ces mesures visent à intégrer la célébration dans la communauté. Le Conseil institue un concours de flambeaux destiné aux enfants. Ensuite, il est précisé quels fonctionnaires prendront part à la procession et au sacrifice, ainsi que leurs offrandes. Les villages environnant ainsi que les grandes farmes du territoire Monariae sont également représentées. À ces propos, 30 toponymes lyciens sont inscrits, une indication précieuse sur l'attendue de la participation régionale. Enfin, il est également question des sacrifices envoyés par d'autres cités, membres du koinon lycien, qui rejoignent la procession. La gonothète délivre à chaque cité participante un certificat attestant de son application dans les sacrifices. En résumé, la fête connue sous le nom de Demosthenia semble avoir joué un rôle clé dans le contexte politique et social de la Lycie de l'époque impériale. En tant qu'outil de renforcement de la cohésion du centre urbain et de ses campagnes, ainsi que des différentes cités de Lycie. Il est probable que les nombreux concours thémides de Lycie, de Pamphylie, de Pisidie, de Phrygie, mentionnés ci-dessus, aient eu l'ampleur et la portée de Demosthenia. Mais il est possible que toutes ces fondations et prospérer dans ces régions à cette époque parce que, outre le besoin personnel des donateurs, des Demosthenes, de Meleagros ou de Oiarestos, etc., de promouvoir et de préserver leur nom, elles jouaient un rôle dans le renforcement de la cohésion entre les cités et le territoire environnant, ainsi qu'entre les cités elles-mêmes. Et cela explique la raison pour laquelle les Demosthenia ont été adoptés et financés, en plus du fonds de Demosthenes, par la cité elle-même. Comme nous avons déjà dit, certaines festivités et compétitions parrainé par des fondateurs et étroitement lié au gymnase. Je vais citer quelques exemples parmi les cas évoqués lors de nos rencontres afin de ne pas surcharger la présentation. À Apamé, nous avons vu Kephisodros, à Patmos et Yémandros, les compétitions, aujourd'hui nous avons mentionné des Léonidéia et de Badesseia, et en plus le gymnase qui était également le cadre de nombreuses manifestations comme nous avons vu dans le cas de Critolaos et Iale. Je ne mentionnerai pas d'autres cas ici, mais il est évident que les événements similaires, se déroulaient dans de nombreuses fondations associées au gymnase. Sur le graphique affiché à l'écran, vous pouvez observer le grand nombre de fondations gymnasiales durant les périodes hellénistiques et impériales. Elles concernent l'huile d'onction, nous avons déjà dit, le bois, mais également des manifestations auxquelles participaient le jeûne et les éphèbes. La présence de la jeunesse ouvre un nouveau champ d'interprétation concernant les nombreuses fondations offertes au gymnase. Ces dernières ne traduisent pas uniquement les besoins de la communauté ou les difficultés économiques liées à l'entretien coûteux du gymnase. Elles témoignent également de son potentiel pour inscrire durablement le nom du donateur dans la conscience des générations futures et bien au-delà. Il en va de même pour d'autres festivités soutenues par des fondations. Par exemple, les garçons participent aux compétitions de Demosthenia à Inoanda, ainsi qu'aux épreuves athlétiques de Thémides. Ce fait n'a rien d'étonnant. Dans le monde grec, la participation des enfants et des éphèbes et des jeunes aux célébrations communautaires était une pratique systématique non seulement encouragée, mais aussi imposée par les cités elles-mêmes. Dans les décrets en l'honneur d'Antiochos, le troisième, et de Laodicée, la cité de Théos donne une évaluation intéressante de la participation des jeunes aux sacrifices offerts par la cité, au roi, aux charites, grâce, et à mnemosyne, mémoire, au début de chaque année administrative. Selon le décret, les jeunes commencent leur participation à la vie publique en rendant hommage à leurs bienfaiteurs. Cet élément convient très bien aux fondations. Le fait que les fondations visent la durée et les fondateurs investissent dans l'avenir donne une valeur particulière à la participation de la nouvelle génération aux événements soutenus par des fondations. Et maintenant, à la fin de nos rencontres, quelques conclusions rapides. L'analyse des données sur les fondations grecques antiques a révélé, et j'espère qu'a révélé, un phénomène complexe, étroitement lié aux périodes dans lesquelles il est observé et évoluant en parallèle avec elles. Conçu tant sur le plan structurel et fonctionnel pour assurer la pérennité et une large diffusion, les fondations cherchent à s'ancrer dans le présent et à se projeter vers l'avenir, avec l'ambition de marquer durablement les contemporains et les générations futures. Le fondateur cherche à transmettre un héritage incarnant ses valeurs, ses aspirations ou ses ambitions personnelles, lesquelles sont influencées, largement influencées par sa position sociale et par des dynamiques familiales spécifiques. À l'instar des évergésies ponctuelles, les fondations s'adaptent aux besoins et aux difficultés de la communauté, tout en ayant un impact nettement plus important sur l'économie locale grâce à leur caractère durable et récurrent. L'histoire des fondations grecques est indissociablement liée à une interaction réciproque entre l'individu et la communauté. Les attentes et objectifs du fondateur s'inscrivent dans un dialogue permanent avec la communauté bénéficiaire. Les fondations acquièrent une valeur ajoutée au sein de la communauté et lui apportent une contribution précieuse. Les fondations grecques sont un espace, paysage, je ne sais pas ce qu'on peut dire, où l'individu et la communauté sont à tous les niveaux institutionnels, social, économique, absolument interconnectés et interagissent dans l'élaboration de leur histoire et de leur mémoire commune. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.